Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il y a des univers qui ont décidément bien du mal à se mettre au féminin. Alors oui, c'est vrai, ça y est, on a une première ministre. En revanche, dans la musique, ça résiste. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu une femme à la baguette? On a encore beaucoup de mal à parler de chef-feu d'orchestre et encore plus à en trouver. Puisque la voie ne lui était pas ouverte, elle a décidé de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, non seulement elle vit de sa passion, mais elle la partage. Elle en est même devenue une ambassadrice indispensable et obstinée. Sa baguette, elle la pointe vers tous ceux qui pensent ne pas avoir droit à toute cette douceur, tout ce plaisir qu'apporte le classique. Tout ça parce qu'ils habiteraient du mauvais côté du périph', par exemple. Parce qu'on peut jouer juste et aussi faire du hors-piste, c'est donc une chef d'orchestre qui est avec nous ce soir. Elle s'appelle Zaya Ziwani.
Hors-piste. Thomas Soto sur France Inter.
À 18 ans, Fethouma et Zaya ont la même vie que les autres jeunes filles de leur âge. Les études et beaucoup de travail à la maison. L'une sera concertiste, l'autre chef d'orchestre, elles l'ont décidé.
En fait, on n'a pas été attirés par la même chose dans la musique. Donc il n'y a jamais eu de rivalité, non. Et je serais même tentée de dire que c'est plutôt...
Non, on a même fait de l'admiration réciproque. C'est-à-dire que moi, voilà, des fois, j'adorais faire ce qu'elle fait et inversement. Donc du coup, s'il y a bien eu quelque chose qu'on n'a pas eu entre nous, c'est de la jalousie.
1, 2, 3, et... C'est mieux, on refait ça encore une fois.
Chut. Elle combat pour qu'on la considère pour ce qu'elle fait et non pour ses origines algériennes, l'exotisme de son prénom, Zaya, ou son lieu de résidence.
À chaque fois qu'on m'a dit non, c'est pas fait pour toi, moi ça m'a au contraire boosté pour faire encore plus, de faire mieux, de prouver que c'était possible.
Moi, Claire Gibault, c'était un petit peu une idole quand j'étais, une idole quand j'étais adolescente, puisque c'était la chef d'orchestre qui était reconnue à l'époque.
C'est sûr que c'est un milieu plutôt conservateur, hein, le milieu de la musique classique, et puis basé sur le showbiz, et que tout ce qui est lié au pouvoir, à la gloire et à l'argent, et c'est ça qui entoure ces métiers. Il faut le voir, il y a un star system. Les femmes ont du mal à y accéder, peut-être aussi parce qu'en même temps, on n'est pas prête à tout sacrifier à ça, que moi, je crois qu'on attend en plus des qualités humaines des femmes encore plus que des hommes.
Et c'est cette rencontre avec ce grand maître de la direction d'orchestre qui a été déterminante, puisque c'est lui qui m'a dit « Zaya, t'as tout ce qu'il faut pour, donc il faut te lancer maintenant.
Wow. » C'est trop exagéré, ça, vous voyez. On ne peut pas différencier à ce point-là, c'est un problème stylistique. Il faut que les différences soient le moins possible.
Je voudrais savoir si vous vous voyez comme un symbole aujourd'hui de réussite.
Un symbole, je ne sais pas, un message d'espoir, je l'espère en tout cas.
Idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards. Des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.
La cage aux oiseaux, Pierre Perret, pour souhaiter la bienvenue à Zaya Ziwani. Bonjour et bienvenue donc dans Hors Piste, Zaya.
Merci, bonjour.
On va écouter beaucoup de musique avec vous, on va partager beaucoup de musique, on va expliquer... ce rôle clé que joue la musique dans votre vie et dans la nôtre. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander si vous reconnaissez ça. flûte enchantée, Mozart, évidemment. Oui. C'est incroyable parce que vous avez les yeux qui pétillent et dès qu'il y a de la musique qui arrive, à chaque fois pendant le portrait, là, d'un coup, ça s'allume.
Ah bah écoutez, oui, la musique, ça me fait tellement... ça me fait rêver, en fait. Donc j'adore cet univers. Et puis en plus, c'est que des extraits aussi qui ont symboliquement aussi beaucoup de résonance dans mes souvenirs ou dans ce que j'aime beaucoup aussi, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de les entendre.
Celui-là, précisément, la flûte
celui-là,
enchantée.
En effet, la flûte enchantée, parce que déjà c'est un monument de la musique et que ces opéras de Mozart font partie des musiques que j'ai beaucoup entendues quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de grandir avec mon frère et ma sœur dans une famille de mélomanes et on en écoutait beaucoup à la maison. Et ma maman nous avait emmenés voir justement. La flûte enchantée à l'Opéra de Paris. Et ça fait partie de mes premiers grands et beaux souvenirs d'avoir été au concert, en fait.
Vous avez quel âge quand vous allez voir la flûte enchantée?
Écoutez, je m'en souviens plus très bien, mais je pense qu'on devait avoir autour de moins d'une dizaine d'années, entre 8 et 10 ans. Et c'est vrai que je l'avais écouté à la maison, mais de le voir en vrai, c'était magique. Et c'est là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, très tôt, que la musique, en fait, c'était une musique qui se vivait. Alors, j'adorais l'écouter à la maison, mais d'aller au concert, on sentait l'énergie. Et j'ai toujours été convaincue que, voilà, que ça devait plus se vivre que s'écouter.
Ça veut dire qu'à 10 ans, ce jour-là, vous avez déjà la vocation, vous comprenez déjà que ce sera votre vie?
Alors, pas forcément tout de suite. En tout cas, je sais que je savais déjà à l'époque que la musique, elle tiendrait une place très importante dans ma vie. Pas longtemps avant, d'ailleurs, c'était rigolo parce que quand j'étais en CE2, en classe primaire... J'ai mon enseignante de l'époque qui m'avait désigné pour diriger la chorale de mon école. Et donc, comme quoi que c'était un peu prémonitoire. Et je me souviens, c'est à ce moment-là que j'étais une petite fille réservée, mais que je me sentais bien à cette place-là. Et donc, peut-être que ça avait commencé un petit peu à cheminer en moi. En tout cas, la musique, elle a toujours une place très importante, même si qu'on est adolescent et qu'il faut beaucoup travailler la musique et que parfois on a envie aussi de faire d'autres choses. J'ai eu quelques moments où j'avais envie de... plutôt de ma musique que travailler les instruments, mais c'était vraiment dans la musique que je me réfugiais et que je trouvais aussi de l'énergie.
Pourtant, dans la famille, je crois que c'est votre petit frère le premier à être allé au conservatoire.
Oui, c'est vrai, exactement, parce que comme en fait, on en écoutait beaucoup à la maison, assez naturellement d'ailleurs, avec ma sœur Fethouma, on est jumelles toutes les deux, donc... on a le même âge et donc on a souhaité aller au conservatoire et quand ma mère elle a été nous inscrire, il restait qu'une seule place, donc elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi et du coup c'est notre petit frère qui a été et c'était une première, quelque part une première déception. Alors bon, je sais que le chemin que j'ai emprunté a été souvent jalonné de difficultés, de parfois de refus et de défis également, et donc du coup ça a été un premier moment où on m'a dit non, mais bon.
Et là vous avez pensé oui déjà? Vous avez dit, on me dit non, ça sera oui quand même.
Oui, en tout cas, je me suis jamais dit que ça, la porte serait fermée. Et puis, en fait, on a continué à. Moi, j'avais déjà une petite guitare, du coup, je continue à jouer un petit peu de la guitare à la maison. Et puis, c'est surtout notre mère qui du coup a pris l'initiative d'assister au cours de mon frère. Elle prenait des notes et puis quand elle revenait, elle nous enseignait ce que mon frère venait d'apprendre.
Elle vous refaisait les cours à la maison.
Exactement, elle avait un cours d'avance sur nous, mais voilà. Et c'est ce qui nous a permis avec ma sœur quelques semaines après de pouvoir intégrer le conservatoire quand des places se sont libérées.
Zahia, vous êtes une machine à générer des clichés. Femme, arabe, vivant en banlieue, dans un milieu modeste. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit « je ne me laisserai pas enfermer là-dedans » ?
Parce que déjà en fait je c'est aussi par l'éducation que j'ai reçue de mes parents qui ont fait ce choix de venir d'Algérie en France pour aussi nous offrir d'autres opportunités et mes parents qui nous ont toujours dit en fait qu'il fallait que on nous regarde pour la qualité de la personne que l'on est et pas pour toutes les raisons que vous avez évoquées.
C'est facile à dire, mais ça c'est le regard de vos parents, c'est pas le regard des autres, c'est pas le regard des copains à l'école, c'est pas le regard des profs, c'est pas le regard.
Oui. Alors après ils nous ont toujours dit qu'il fallait se battre pour ça, et qu'il fallait travailler et donc on a eu quand même dans notre famille avec nos parents, avec nos grands-parents aussi des modèles aussi beaucoup de combativité, de persévérance, et je pense que c'est cette force-là que j'ai eue. Puis avec ma sœur Fethouma, on est deux aussi, et donc on a aussi quelque part affronté aussi toutes ces difficultés ensemble. Donc le fait d'être aussi déjà une petite équipe de deux, ça aussi, ça a été une force. Et c'est vrai que j'ai jamais voulu qu'on décide à ma place. Et c'est vrai que mon père me l'a beaucoup dit. Alors de le dire, c'est une chose, vous avez raison. Et puis après, il faut arriver à concrétiser ça.
Mais votre père et vos parents, ils vous encourageaient ou ils vous disaient tranquille
Non, mes parents, ils nous ont toujours encouragés. On a eu cette grande chance. Alors après, quand j'ai, à l'année de mes 18 ans, passé le bac, je préparais aussi mes diplômes en guitare, en alto. Donc quand je lui ai dit que je voulais, en plus, je faisais de la direction en plus, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc il avait été un petit peu
un petit peu interrogatif, mais après, quand je lui ai dit que c'était pour en plus étudier avec Sergiu Celibidache, il le connaissait.
On entendait dans le portrait, hein, c'est lui le chef d'orchestre qu'on entendait, qui n'était pas très content.
À part peut-être ce petit moment où voilà, mon père était un peu interrogatif, parce que justement, c'était aussi une année où il y avait beaucoup d'autres enjeux. Non, on a eu la chance d'avoir toujours nos parents derrière nous, mais qui nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait des résultats et que la voie qu'on voulait entreprendre, on la choisissait, mais il fallait des résultats. Donc on a travaillé.
Combien de fois on vous a dit, vous avez entendu, Zaya, c'est pas possible?
Bah, j'ai envie de dire, je l'ai toujours entendu, en fait. Après, je pense qu'aujourd'hui, la place que j'ai en tant que femme chef d'orchestre, cette place dans le milieu musical, la place que l'Orchestre Divertimento a aussi à cet orchestre que j'ai créé il y a plus de 20 ans.
On va en parler tout à l'heure, ouais.
Exactement, je pense que c'est aussi parce que justement, on m'a dit que c'était pas possible et ça m'a amené à toujours réfléchir, faire un pas de côté, réfléchir autrement. Ça m'a vraiment beaucoup questionné à savoir quel chef d'orchestre j'avais envie d'être aujourd'hui. Ouais. Et au 21e siècle, et je pense que ça a été presque une chance. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de transformer ça plutôt que comme quelque chose de lourd à porter. Bah,
Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une adolescente, une jeune femme se dit « Moi, je veux être chef d'orchestre ». C'est pas commun, il faut déjà y penser. Il y en a qui disent « Je veux être guitariste, je veux de la guitare, je veux être violoniste, je veux être chanteur, je veux être acteur, je veux être chef d'orchestre ». Ça sort d'où, ça?
Bah, en fait, ça sort vraiment de cette aventure de la musique. Alors, quand...
C'est la chorale à l'école, c'est vraiment ça au début?
Alors, il y a eu un peu de ça, puis c'est surtout après, en fait, moi, je faisais de la guitare classique. Et j'ai adoré faire cet instrument que j'ai pratiqué pendant longtemps.
Alors on a tous voulu jouer Jeux interdits pour emballer, voilà, mais ça fait pas de nous des chefs d'orchestre.
Non, puis après, en fait, je voulais jouer des symphonies, des opéras, enfin, toutes ces belles musiques qu'on entendait à la maison. Et donc, c'est pour ça que j'ai joué de l'alto. Et en fait, j'étais tellement impatient d'intégrer un orchestre que j'ai beaucoup travaillé. Et assez rapidement, j'ai pu en effet faire de l'orchestre. Et c'était vraiment en étant dans l'orchestre symphonique, en plus en tant qu'altiste, on est au milieu et surtout devant le chef d'orchestre. Et ça a été pour moi comme une révélation, parce que, en fait, d'être dans un orchestre, c'est aussi... un orchestre, c'est un groupe qu'il faut arriver à fédérer, les emmener dans la même direction. Mmh. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu... c'était ma voix, c'était ma place, en fait. Et donc, une fois, j'ai eu une expérience quand j'avais 14 ans au conservatoire de Pantin, là où j'ai étudié, et où il fallait, comme ça, de façon très inattendue, un chef d'orchestre. Et donc, le directeur de l'époque m'a dit « Bon, bah, Zaya, tiens, t'es dégourdi, vas-y, fais-le, on a besoin de quelqu'un. » J'étais sur une création contemporaine. Et du coup, à ce moment-là, je me suis sentie exister. J'avais plus l'impression d'être une élève, d'être une adolescente, mais d'être un artiste et d'être une artiste. Et là, j'ai compris, c'était le déclic et je me suis dit, mais que c'était vraiment ça que je voulais faire.
Pourquoi c'est un métier de bonhomme? Pourquoi il y a 4% de chefs d'orchestre qui sont des femmes en France?
En fait, il faut avoir en tête que déjà, pendant très longtemps, c'était un univers qui a été exclusivement masculin. Il y a encore 30 ans de ça, il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites.
L'orchestre de Vienne, hein, le fameux concert du Nouvel An.
Qu'on voit, effet, sur le service public à la télévision le 1er de l'an. Bah, c'est un orchestre qui a mis du temps à intégrer des femmes. Et encore aujourd'hui, on est très loin de la parité dans cet orchestre. Et dans beaucoup d'orchestres, donc forcément, la personne qui incarne l'autorité, à savoir le chef d'orchestre, ça a été une place qui, pendant très longtemps, était difficile à pouvoir... à intégrer. Et puis j'ai souvent entendu dire que c'était pas fait pour les jeunes, pas fait pour les femmes, parce qu'il fallait du charisme, de l'autorité, que c'était un métier qui n'était pas compatible avec la vie de famille, avec la maternité par exemple. Et donc c'est vrai que c'est encore un métier aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à offrir aux femmes, en fait. Et donc, et même dans la formation, pendant très longtemps, au Conservatoire supérieur de Paris, il y avait très très peu de femmes qui rentraient dans la classe. Donc forcément, si elles n'étaient pas formées...
Ce fameux chef d'orchestre roumain dont vous parliez, oui. Sergiu
Celibidache.
Il disait, moi, les femmes, elles tiennent 15 jours dans les cours d'orchestration.
Bah, oui, c'est ça, parce qu'en fait, lui, il avait... Alors bon, faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. C'était une personnalité très, très égocentrique aussi, ouais. un grand chef d'orchestre du XXe siècle. Et forcément, il disait ça parce qu'il testait aussi les femmes, justement, pour leur capacité à pouvoir affronter les difficultés. Alors, moi, à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans. Je ne sais pas si c'est l'insouciance de l'âge ou pas. J'ai réussi à surmonter cette... C'était pas la première fois que je rencontrais des difficultés aussi. Donc, quelque part, je me suis battue parce que j'avais envie de... C'était pour moi un nouveau défi et de prouver que j'étais capable. Mmh. Et quelque part, j'ai été aussi bien, du coup, à bonne école et bien entraînée par la suite... Pour plein de raisons, quand j'ai commencé ma carrière de chef d'orchestre, j'ai créé mon orchestre, mais j'ai aussi eu l'opportunité de diriger quelques orchestres. Et j'ai vu qu'en effet, l'accueil qui nous était fait était très, très difficile. Mmh. C'était souvent très douloureux. Et donc, voilà, il faut être très solide et très armé pour pouvoir affronter les orchestres à l'époque. Aujourd'hui encore un peu, même si heureusement...
Encore un peu aujourd'hui, ouais.
Oui, après, ça a beaucoup changé et je trouve que dans la vision aussi des musiciens, ils attendent surtout un bon chef d'orchestre. Donc c'est vrai qu'on est jugé de façon assez sévère, même les premiers pas qu'on va faire sur l'estrade, la façon dont on va dire bonjour à l'orchestre. Les 15
c'est pas
premières...
un peu désuet tout ça d'ailleurs, la queue de pie, une cérémonie, on a l'impression qu'on est en 1834 à chaque fois.
Oui,
là.
après il y a...
Vous êtes comme ça, vous êtes
non, à... non, pas du tout, non, non. Après, il y a des façons, moi je trouve que c'est important de garder aussi le sens du, quelque part un peu du protocole, de l'élégance, mais on peut le faire aussi de façon beaucoup plus moderne, contemporaine.
Et là, ça... les messieurs, ils se la racontent un peu parfois, quand même, non ?
Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Hein ? Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Après, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le métier de chef d'orchestre, c'est de voir comment aujourd'hui, mon métier, c'est aussi de transmettre du patrimoine musical, voilà, qui a traversé les siècles et qui va continuer à traverser les siècles, mais de les mettre aussi, de les présenter aux spectateurs avec un regard aussi beaucoup plus contemporain. Et moi, j'aime bien raconter aussi des histoires, les histoires des œuvres, des compositeurs, la notion du voyage, de la rencontre.
C'est vrai que vous parlez à la salle ?
Oui, oui, à tous mes concerts, en effet. Je parle à la salle et j'explique en fait les œuvres et aussi le cheminement du concert. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette année, alors bon, on a eu les élections présidentielles et bientôt législatives. On a entendu énormément de débats sur la place de la culture en France. Qu'est-ce que c'est d'être français aujourd'hui ? Ben, moi, j'aime bien aussi montrer au public aujourd'hui que les plus belles œuvres du patrimoine musical français se sont aussi créées, construite dans la rencontre avec d'autres cultures européennes, extra-européennes. Et voilà, et moi je trouve ça important aussi de montrer ça, comment notre culture elle s'est construite en France. Voilà, ça fait partie des choses. Alors il y a plein d'autres sujets. La place, dans 2 ans, on va accueillir les Jeux Olympiques, la place du sport, de l'éducation. Enfin, et tout ça, je raconte. En fait, j'ai toujours soit un petit message, soit quelque chose à raconter dans le cadre des concerts. Et pour montrer que la musique, elle n'est pas hors du temps, dans une bulle qui regarde vers le passé, mais qu'au contraire, aujourd'hui, c'est aussi, on peut mettre ça en regard avec les cultures du monde entier, avec des sujets qui sont importants aujourd'hui. Le lien entre le patrimoine et la modernité. Par exemple, cet orchestre, moi j'interviens beaucoup par exemple en Seine-Saint-Denis ou dans beaucoup d'autres quartiers prioritaires en
France.
C'est
Divertimento, donc l'orchestre que vous avez créé.
Divertimento, et de montrer qu'en fait, les cultures urbaines et la musique classique, c'est pas des univers qui s'opposent mais qui au contraire, qui ont beaucoup de points communs, qui peuvent aussi se rencontrer. Donc voilà, c'est tout ça que j'aime bien interroger.
Cet orchestre, vous l'avez créé parce qu'on vous a pas donné une baguette ailleurs ou pas ?
Oui. Franchement, de façon assez certaine, oui. Après, c'était pas l'unique raison, mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'en étant jeune, en étant une femme et sans avoir du tout de réseau, et puis en ayant un parcours aussi atypique, on me donnerait pas les opportunités pour diriger ailleurs.
Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a proposé, ça a changé ? Est-ce que, là, on est à Radio France, il y a 2 orchestres à Radio France. Qu'un jour, on vous a proposé ces orchestres-là ? Est-ce que aujourd'hui encore, vous êtes la patronne de Divertimento parce que c'est votre bébé ou parce qu'il n'y a pas autre chose ?
Bah, en fait, moi, je suis la patronne de Divertimento par choix. Alors, on m'a souvent invité à diriger beaucoup d'orchestres nationaux en France. Alors, pas ceux de la maison de la radio, mais beaucoup d'autres. On m'a pas invité encore à être directrice musicale d'un de ces orchestres. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, aujourd'hui, la façon dont j'exerce mon métier de chef d'orchestre me convient parce que Divertimento, c'est pas qu'un choix par défaut, c'est un choix avant tout. Et que c'est aussi une liberté de programmation, une liberté aujourd'hui où, dans un univers, parfois, on a tendance à cloisonner la musique, c'est soit dans les grandes salles de concert, et puis soit dans les petites salles de concert, d'opposer un peu les artistes, des enseignants. Moi, j'ai au contraire envie d'estomper toutes ces frontières et de créer, en fait, quelque part, l'orchestre du 21e siècle qui va être plus ouvert, qui va être aussi un orchestre où on va être sur scène à défendre les grandes œuvres musicales, mais aussi dans la transmission pédagogique, dans le lien aussi où on va laisser aussi une place au numérique, au digital, aux cultures urbaines. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui...
C'est un orchestre ou c'est un combat, Divertimento, pour vous ?
Oh, c'est un orchestre, mais qui a un engagement, voilà, qui s'engage. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on me laisserait cette opportunité, cette liberté-là, à la tête d'autres orchestres nationaux. Donc du coup, bah, moi j'aime bien aller, malgré tout, honorer ces invitations ponctuellement et garder le lien avec cet orchestre que j'affectionne beaucoup.
Vendredi prochain, on sera le 3 juin, et vous tournerez le dos au public de la Philharmonie de Paris, puisque vous serez en concert là-bas avec cet orchestre Divertimento et un spectacle qui s'appelle Inspiration d'Orient. Et au programme, il y aura donc notamment cette danse bacchanale de Camille Saint-Saëns. Je disais en plaisantant que vous tournerez le dos, mais c'est vrai qu'on tourne le dos au public quand on est chef d'orchestre. C'est pas compliqué finalement, ça ?
Non, c'est pas compliqué, mais c'est pour ça que je me retourne aussi pour expliquer les œuvres, que j'aime bien aussi avoir le contact avec le public. Après, en fait, d'être chef d'orchestre, c'est vraiment un métier où on n'a pas le droit. enfin, on n'a pas le droit à l'erreur comme tous les métiers du spectacle vivant, mais quelque part, c'est une responsabilité, une pression qui est encore plus grande à chaque concert.
C'est un gros stress avant le concert ?
Oui, après, il y a du trac, il y a du stress. Après, il faut savoir le gérer. Et moi, je sais que c'est là où... C'est ce que je trouve le plus challengeant dans ce métier. Donc, j'aime bien aussi, quelque part, être dans cette situation où il y a de l'enjeu, il y a de la pression. Et d'arriver à transformer ça en une force qui va me rendre encore meilleure. Alors, je sais que c'est pas toujours simple parce qu'en effet, à ce concert-là, il y aura 300 choristes, un grand orchestre symphonique, la salle qui sera pleine. Donc, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Mais en même temps, quelque part, on n'est pas en face du regard du public. Et moi, je sais que j'essaie justement du coup de créer du lien avec mes musiciens par le regard pour leur inspirer confiance et leur donner envie de s'engager vraiment à fond, quoi.
Est-ce qu'il y a un sentiment de puissance quand on dirige ?
Ah ben ça, de façon certaine, oui. Ça, c'est sûr, il y a un sentiment de puissance. Après, il faut pouvoir le mériter aussi, d'être à cette place-là. Mais oui, il y a ce sentiment de puissance parce que quelque part, avec chef d'orchestre, il est là pour emmener tout le monde dans la même direction. Moi, je dirige des œuvres qui sont souvent avec des effectifs importants. J'ai même eu l'occasion de diriger des projets, même avec plusieurs centaines, voire des milliers d'artistes. Et donc, c'est vrai que, alors, il y a à la fois beaucoup de pression parce que c'est une grosse responsabilité. Et en effet, il y a ce sentiment de puissance parce que, avec la baguette, on va justement donner le top départ et on va justement permettre de guider tous ces artistes qui vont s'associer en même temps. Et donc, c'est un beau sentiment. Après,
et en même temps, vous dépendez complètement des autres.
Exactement. Et en même temps, c'est ce que j'allais y venir. En même temps, c'est aussi un métier où il faut être très humble parce qu'on dépend en effet complètement des autres. Là, aujourd'hui, je suis toute seule dans le studio avec vous. Je ne peux pas vous jouer de la musique, par exemple, parce que je n'ai pas un orchestre en face de moi. Et puis voilà. Et puis, il faut surtout donner aussi envie à tout ce monde-là de se donner pleinement, d'être dans une solidarité, d'être dans un collectif. Et ce sentiment du collectif, il faut arriver à le susciter. Donc oui, c'est un métier où on sent la puissance, mais il faut être toujours aussi dans la notion du respect et de l'humilité. Et c'est aussi des valeurs, alors que j'ai beaucoup appris de mes parents, mais que Sergio Celibidac, mon professeur, nous disait, il faut vraiment mériter d'être à cette place-là. Et c'est pour ça que l'exigence que j'ai apprise aussi de son enseignement,
Vous êtes dur avec vous, hein. Vous ne vous passez rien.
Non, c'est vrai, mais je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, je suis légitime aussi vis-à-vis de mes musiciens, dans le milieu musical, c'est que cette exigence-là, en fait, elle est toujours au rendez-vous.
Ouais.
Et que quand je vais jouer à Stein, à Vaux-en-Velin, dans des quartiers en milieu rural ou à la Philharmonie de Paris, je vais jouer les œuvres toujours avec autant de qualité, avec autant d'engagement, et qu'il n'y aura pas de différence. Et je trouve que c'est important, c'est aussi une façon de respecter.
Ça change quoi de jouer à la Philharmonie ou de jouer dans une prison, ou de jouer loin des salles chics, des centres-villes? Quelle est la différence, en fait?
En fait, pour moi, ça ne change rien. Une œuvre, elle reste aussi belle, on est habillé de la même façon. Donc, en fait, en soi, ça ne change rien. Après, je trouve que dans le sens, du coup, ça a beaucoup de sens, parce que je trouve que cette musique-là, pendant longtemps, et moi, je ne comprenais pas quand j'étais jeune pourquoi à chaque fois mes parents nous emmenaient dans des belles salles parisiennes et que je n'avais pas le droit d'y accéder dans mon département. Et donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup animée dans la création de Divertimento. Et ça a été un des premiers choix de se dire, en fait, cette belle musique, on va la rendre populaire dans le sens beau du terme, c'est-à-dire de faire comprendre à tout le monde, mélomane et nouveau public, qu'elle peut vivre aussi en milieu rural, en milieu carcéral, en milieu urbain. Et donc, dans les mentalités du milieu de la musique et même du grand public, c'était pas du tout quelque chose d'évident. Et c'est en faisant tous les jours et en montrant que justement, on a réussi avec notre engagement à fédérer des diversités.
Et pour les musiciens, c'était évident d'y aller ou pas? Quand vous leur dites la première fois, tenez, on va aller en prison, tenez, on va aller dans un gymnase.
Non, je vous cache pas que c'était loin d'être une évidence. Mais en fait, petit à petit, aujourd'hui, les musiciens de l'orchestre Divertimento, ils comprennent ça. Et pour eux, ça, maintenant, c'est naturel.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au début, il a fallu, en effet, les amener à comprendre ça. Parce que d'aller jouer en milieu carcéral, forcément, vous demandez à un musicien, si tu veux aller jouer en milieu carcéral ou sur la grande scène de la Philharmonie de Paris, forcément, il va dire la grande scène
de la Philharmonie. La tendance, c'est la Philharmonie,
ouais. Mais oui, mais quelque part, c'est aussi assez normal
Parce qu'il y a aussi une acoustique, parce qu'il y a aussi.
Exactement. Voilà. Mais par contre, de dire que ça doit, moi, je sais qu'aujourd'hui, mon métier, je l'aime parce que c'est pas que sous cette forme-là que je le fais et que j'adore. Et dans quelques jours, je serai à la Philharmonie de Paris. Et évidemment, je suis content d'y être, faut pas se mentir non plus.
Fier.
Très fier aussi, tout à fait. Et d'être connu aussi pour la qualité artistique de mon travail, parce que pareil aussi, souvent, comme c'était assez singulier, on m'a beaucoup amené à parler de mon engagement dans les territoires auprès des jeunes, et ça, je l'assume pleinement et j'en suis très fier également. Mais je suis aussi une chef d'orchestre.
Il y a un petit côté, oui, elle est sympa, elle est bien, elle va là où les autres vont pas, Mais du coup, elle est un peu moins bonne dans la façon dont on regarde les uns et les autres ou pas?
Bah, parfois, oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de continuer à être présent dans ces grandes salles de concert parce que d'une part, moi, j'y ai droit et les musiciens de l'Orchestre Divertimento aussi, parce que c'est un excellent orchestre, et de montrer qu'en fait, on ne doit pas faire de différence. Alors, physiquement, il y a cette frontière du périphérique, mais on doit montrer qu'il y a justement, il n'y a pas de différence et que peut-être que dans 10, 15, 20 ans, par notre engagement, par voilà ce qu'on notre activité aujourd'hui, ben on ira peut-être aussi naturellement écouter un concert à Stein qu'à la Philharmonie de Paris.
Vous parlez beaucoup de Stein, c'est un concerteur que vous avez dirigé pendant longtemps. C'est un choix là encore ou c'est un déterminisme social?
Non, c'est un vrai choix. Alors à l'époque, alors pour faire tout ce que je fais aujourd'hui avec l'Orchestre Divertimento, j'y suis en effet pour beaucoup, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec les équipes de l'orchestre, les musiciens, ma sœur Fetouma qui est très présente, des élus locaux aussi. Et en fait, c'est en se mettant tous autour de la table. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais été nommée directrice du conservatoire et le maire de l'époque qui m'avait proposé d'installer la résidence de l'orchestre. Et pour moi, ça a été une vraie opportunité, d'une part de développer cet orchestre, mais de prouver et de concrétiser ce que j'avais en tête, c'est de dire, bah voilà, on va venir, on va faire des concerts tels qu'on les fait dans les grandes salles parisiennes, ici, et surtout on va arriver à avoir un public riche de toutes ces diversités. Et ben on a réussi à relever ce défi, et à la suite de ça, il y a eu plein d'autres villes en France qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que notre histoire, elle s'est les 10 premières années de l'Orchestre Divertimento, elle s'est écrite sur ce département, et particulièrement à Stein. Et aujourd'hui, on a plein de très beaux projets partout en France, et aussi dans les grandes salles de concert. Et moi, aujourd'hui, je veux montrer qu'il faut qu'on abolisse toutes ces frontières et qu'on se dise pas, tiens, il y aura que des beaux concerts à la Philharmonie et des concerts de seconde zone ailleurs. Non, l'excellence, la qualité, elle est présente partout. Et c'est aussi une forme de respect auprès des publics d'apporter aussi les meilleurs artistes et avec la plus grande qualité.
Il y a plus de racisme social dans la musique qu'ailleurs ou pas?
Bah écoutez, ailleurs, je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire, mais en tout cas...
En tout cas, il y en a beaucoup dans la musique.
Il y en a. Alors après, consciemment ou même plutôt surtout inconsciemment, pendant très longtemps, il a fallu que je fasse aussi beaucoup de pédagogie auprès parfois de responsables institutionnels, programmateurs, élus locaux, pour expliquer qu'en fait, on n'a pas le droit de décider à la place des autres. Et que moi, en 25 ans d'expérience maintenant, et particulièrement sur ces territoires-là, j'ai toujours vu les yeux briller d'enfants, de familles, d'adultes, parce qu'ils entendent de la musique. Et puis quand vous mettez en plus face à un orchestre, ça dégage une super belle énergie, ça suscite des émotions. Et de leur dire, laissez-leur l'opportunité de pouvoir vivre ces moments-là. Après, ils aiment ou ils n'aiment pas, ça c'est une autre histoire. Mais il faut pouvoir le faire. Et c'est là où j'ai rencontré en effet parfois beaucoup de résistance, parce qu'on me disait, non, mais ça n'intéressera pas les gens dans ces endroits-là. Ou alors, comme ça, c'est dans d'autres...
On pense pour eux, c'est plus facile.
On pense pour eux, et puis du coup, en fait, on considère ça différemment. Et pendant très longtemps, même dans les budgets que nous on avait de l'État, c'était surtout des budgets qui étaient liés à la politique de la ville et pas à la culture. Donc en fait, on ne considère pas ces territoires-là comme des lieux de culture. Et c'est ça aujourd'hui que moi j'ai envie de continuer à défendre.
Zaya Zimouani, est-ce que les chefs d'orchestre ont forcément mauvais caractère?
Mauvais, je ne sais pas, mais du caractère, il en faut, ça c'est sûr.
Et comment le vôtre?
Oh, écoutez, le mien, il est... j'ai un caractère en effet bien trempé. Après, je sais que j'aime bien susciter aussi la confiance de mes musiciens. Donc je suis dans une certaine rondeur, mais quand il faut là, pour la Philharmonie, on sera plus de 500 artistes sur le plateau. Donc, autant vous dire que... Voilà,
il faut une patronne, quoi.
Voilà, exactement. Mmh. D'ailleurs, parfois, ils m'appellent la patronne à l'orchestre. Mais j'aime bien... C'est pour ça que ce lien qui me lie avec les musiciens de l'Orchestre Divertimento, il est atypique et je l'aurais nulle part ailleurs. C'est qu'on a aussi un lien de confiance, aussi une convivialité. Pour être bon sur scène, il faut être bon musicalement, mais il y a aussi une solidarité humaine qui se crée. Alors après... On partirait pas forcément tous en vacances ensemble, mais ce lien
du collectif... Vous connaissez une entreprise dans laquelle tout le monde partirait en vacances ensemble?
Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce lien de la solidarité du collectif est important, et c'est ça que j'ai réussi à créer avec Divertimento, donc j'y tiens beaucoup.
Si je vous pose la question du caractère, c'est à cause de lui.
Monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Enfin, c'est comme si, comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron, ce n'est pas un orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop, alors.
Et c'est reparti pour la marche hongroise de Berlioz, c'est la grande vadrouille, Louis de Funès. Alors, j'entends les puristes qui s'étranglent, mais il est fou, il met du De Funès et la grande vadrouille, alors qu'on parle de musique classique.
Ah non, mais moi j'adore cette scène, parce que, bon après c'est très caricatural, mais on passe de c'est très bien à c'est très mauvais à la fin.
Ouais. Ça vous arrive vous ça ou pas?
Non. Après, moi je sais que dans la façon dont j'encadre les musiciens, je tire toujours ce qu'il y a de bien, mais par contre je les lâche pas, et c'est ça qui est... En fait, le métier de chef d'orchestre, on le voit pas forcément, parce qu'en fait, on voit les chefs d'orchestre sur scène en train d'agiter des bras, mais il y a tout au préalable, tout ce temps où on construit justement le travail, on construit l'œuvre avec les musiciens. Il y a des moments où on les pousse à aller vraiment loin, à s'engager très fortement physiquement, et puis d'autres fois où faut laisser un petit peu justement retomber la pression. Et c'est ce savant équilibre qui est pas simple à trouver. Alors on voit que bon, là, c'est très caricatural, parce que Louis de Funès, en l'espace de 30 secondes, il passe de c'est très bien à c'est très mauvais. Donc forcément.
Et en même temps, ça a fait entrer Berlioz dans des millions de foyers.
Exactement. Non, mais c'est vrai. Et bon, je trouve cette scène, voilà, Louis de Funès, il est tellement rigolo et c'est un acteur en plus avec son langage corporel et nous, les chefs d'orchestre, c'est le langage corporel qui est très important aussi. Donc voilà, ça me fait rire, même si c'est pas de cette façon-là que je dirige les orchestres.
Dans la série Mélange des genres, parmi les chansons que vous avez eu envie d'écouter dans cette émission, il y a La tendresse de Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Thomas Soto. France Inter, hors piste.
Et on entendait Bourville, la tendresse choisie par Zaya Ziwani, la chef d'orchestre invitée cet après-midi. Pourquoi Bourville? Pourquoi la tendresse?
Bah, parce que c'est, déjà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais c'est surtout aussi la teneur de cette chanson que je trouve super, super belle et réconfortante. Et en fait, ça parle justement de cette tendresse qui est importante aussi, je trouve, à garder tous les jours. En fait, moi, je sais que c'est la musique, elle permet ça aussi, de pouvoir procurer des émotions et quelque part des moments aussi, justement, de tendresse en musique. Et évidemment, depuis que j'ai ma fille Sarah, c'est quelque chose qui me paraît évident. Mais pendant très longtemps aussi, ça m'a vraiment aidée aussi à me dire que j'étais dans le vrai par rapport au fait de se dire, on va installer la musique dans différents territoires.
Parce que vous avez douté?
Parfois, j'ai douté. Je me suis en effet questionnée parce qu'il y a des moments où ça devient tellement difficile et puis tellement me renvoyer le fait que c'était pas forcément, alors publiquement ou pas publiquement d'ailleurs, que ça serait difficile, que c'est pas la place de la musique classique. Et moi, tous les jours, je voyais que justement, avec les étoiles dans les yeux des enfants, des familles, que justement, ça procurait des émotions, ça procurait cette tendresse qui est tellement évidente et dont on a tellement besoin tous les jours, et que ces émotions-là, parfois quand vous habitez dans certains quartiers en France, en Seine-Saint-Denis, la vie elle est tellement dure que c'est le lien avec ces sensations-là, c'est pas toujours évident, et que si la musique peut le procurer, donc cette musique, à chaque fois que j'entends ce Bourville la chanter, ça me fait penser au fait que justement on est dans le vrai, en fait, en étant là où on est.
Alors, on écoutait aussi dans le portrait tout à l'heure La cage aux oiseaux, donc de Pierre Perret. Oui. Parfois on a l'impression que c'est les oiseaux qui osent pas sortir de la cage.
Il y a un peu de ça aussi, et c'est vrai que moi j'ai souvent lutté contre parfois les idées reçues des personnes qui étaient à l'extérieur de ces territoires urbains, mais parfois même à l'intérieur, et de dire à certains parents, à certaines familles, à certains enfants, dire vous aussi vous avez le droit d'écouter de la musique classique, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de pas aimer, mais que parfois certains prennent ça comme une fatalité, la dureté de la vie, et de dire aujourd'hui on peut aussi se battre contre ça et revendiquer aussi l'égalité sur plein de sujets. Alors aujourd'hui, c'est vrai que souvent on voit que dans les discours, on prône l'égalité de l'accès au transport, de l'accès aux soins, la qualité de l'éducation. Mais la culture, c'est aussi un sujet sur lequel on doit pouvoir aussi avoir plus d'égalité, et qui est malheureusement encore assez inégalitaire en France. Et donc de dire aux familles que c'est important aussi que la culture, leurs enfants puissent en bénéficier.
Alors on sait que dans ce pays, le problème, c'est les étiquettes. Vous avez eu des étiquettes successives. La première, c'était la fille de banlieue qui finalement a rien à faire dans les centres-villes à diriger un orchestre. Et puis après, vous êtes devenue, notamment au moment des émeutes en banlieue en 2005, la chef d'orchestre de banlieue que tous les journalistes venaient voir en disant elle doit savoir, puis elle va nous faire un petit interview qui va bien. Comment vous avez vécu tout ça?
Parfois, je regardais ça avec beaucoup de recul et d'ironie même parfois, puis d'autres fois avec difficulté aussi. J'ai même eu certains journalistes qui m'ont dit mais est-ce que vous mettez votre gilet pare-balles pour aller faire vos concerts ou autre? Et je me disais comment il y a ce regard là sur la banlieue, sur ces territoires, comme si c'était des territoires qui n'étaient pas la France, qui étaient différents. Et donc, même dans les médias, il a fallu que je me batte aussi beaucoup pour dire attention, ici ce sont pas des territoires, faut pas venir en parler parce qu'on fait de la musique, c'est normal de faire de la musique en France. Après qu'on le fait bien et qu'on le fait sous un angle différent, ça oui, ça mérite d'être valorisé. Et je me suis rendu compte par cette image qui était reflétée des banlieues, que le chemin il serait énorme, et qu'en fait cette pédagogie, il fallait l'avoir au niveau des médias, au niveau des programmateurs, au niveau des élus, au niveau à tout point de vue.
Et ça s'arrange, ça s'aggrave ou c'est pareil?
Non, je trouve que ça s'est quand même arrangé. Après, ça avance doucement, mais ça avance. Alors j'espère qu'il y a eu les émeutes de banlieue en 2005, il y a la crise sanitaire, sociale, économique là que l'on vient de traverser, qui a montré justement qu'il fallait faire évoluer beaucoup de sujets en France. Que ces inégalités, en fait, elles ont été encore plus mises en lumière. Alors, parfois, on a eu l'impression que c'est la première fois qu'on était face à des inégalités. Ben non, elles ont toujours existé. Donc, elles ont été plus mises en lumière avec la crise sanitaire. Maintenant, moi, j'espère que, on va être dans ce tournant où, au même titre qu'au niveau de l'écologie, au niveau du social, il y a beaucoup de chemin à faire et c'est maintenant qu'il faut se prendre en main. Et c'est pas que des petites mesurettes, et qu'il faut vraiment changer les choses en profondeur. Alors maintenant, j'espère que nos responsables politiques seront à la hauteur de ces enjeux.
Vous connaissez la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak?
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu l'occasion de la rencontrer je lui souhaite beaucoup de réussite d'ailleurs dans ce mandat.
C'est important qu'elle porte ce nom ou c'est comme avoir une femme première ministre, le seul fait qu'on le remarque, qu'on le note, en fait c'est déjà le signe qu'on n'avance pas très vite?
Oui, après moi souvent, on m'a beaucoup interrogé par exemple pourquoi je féminisais le mot chef d'orchestre.
Alors vous avez écrit un livre qui s'appelait La chef d'orchestre, oui. CHEF.
EF, c'est, ouais, alors c'était il y a plus de 10 ans de ça, alors je ne vous cache pas qu'à l'époque je ne me posais même pas la question. Après parce que pour moi, c'est plus dans le contenu, dans le fond. En fait, après, je me suis dit, bah oui, féminiser le mot, bah oui, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Maintenant, c'est à cet endroit-là que ça doit être le plus important. En fait, aujourd'hui, c'est dans les actes, concrètement. Donc, moi, je suis très contente aujourd'hui qu'il y ait une femme ministre de la Culture qui s'appelle Rima, qui est une femme première ministre. Et si elles sont à cette place-là, c'est parce qu'elles ont les compétences pour ça. Mmh. Et maintenant, j'ai envie qu'on regarde ces femmes-là comme moi, on me regarde en tant que chef d'orchestre, parce que je suis une très bonne chef d'orchestre.
Et pas qu'on juste... écoute ce que vous avez à dire.
Exactement.
Et pas qu'on vous regarde extérieurement.
C'est ça,
sorte.
Voilà. Et pas juste être voilà, un sujet de discussion. Mais, et on paie, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être artiste en France. Et c'est ça qui est un peu difficile encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous me demandiez si les choses, elles ont évolué. Oui, elles ont un petit peu évolué. Mais parfois, on est encore dans ces codes-là où il y a quelque part, les bons musiciens, c'est ceux qui vont être tout le temps dans les plus grandes scènes nationales et qui sont concentrés sur leur trajectoire personnelle. Bah, moi, j'ai pas l'impression d'être moins ambitieuse ou d'être une moins bonne chef d'orchestre parce que quelque part, j'ai envie de partager ça avec les autres. Mmh. Et c'est ça qui, moi, j'ai envie qu'on change aujourd'hui. C'est que notre façon de voir aussi les hommes, les femmes, de voir les hommes politiques, les femmes chefs d'orchestre. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être musicien. Et j'espère que ça va faire changer un peu les choses.
Zaya Ziwani, dans une société dont on répète chaque jour qu'elle est un peu plus dure, quelle place il reste pour le rêve?
Bah, vous avez raison, c'est important de continuer à faire rêver. C'est pour ça que la musique...
Mais vous rêvez de quoi, vous?
Moi, je rêve beaucoup de musique, d'ailleurs. En fait, moi, je rêve surtout que ce soit plus simple. Après, aujourd'hui, on dit oui, vous avez accompli beaucoup de choses. Souvent, on pose cette question-là. En gros, est-ce que vous avez encore des choses à accomplir? Mais j'en ai un milliard encore. Il y a plein de projets que j'ai envie de réaliser. Dans 2 ans, on accueille les Jeux Olympiques. Je trouve que c'est un super événement.
Ça fait 2 fois que vous en parlez des JO.
Bah oui, parce qu'en fait.
Il y a un truc à faire, là.
Il y a un truc à faire, bien évidemment. Puis moi, je trouve que c'est un moment où, justement, il y a toute la planète qui est réunie. Juste chez nous, là, à Paris, en région parisienne, partout en France, voilà, de montrer que justement on peut se retrouver avec toutes ces cultures-là, cette rencontre, et que c'est au contraire des sources de richesse et pas d'inquiétude. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais avec l'année qu'on a traversée, tous les débats qu'on a entendus, on a toujours l'impression que l'autre, c'est un danger, alors que non, au contraire, moi j'ai envie qu'on. Et je trouve que c'est une formidable opportunité, ces Jeux Olympiques, mais comme plein
de. Vous aimeriez faire
sujets...
la bande originale des Jeux, par exemple, que ce soit l'Orchestre Divertimento qui.
Ah, bah, avec grand plaisir.
C'est le moment de demander. Hein,
tout à fait, si, bah, je le demande solennellement, alors. mais voilà, en fait, il y a plein de. Je trouve qu'on a, on a plein de sujets, très beaux sujets à l'avenir à traiter. En Seine-Saint-Denis, c'est une des salles, par exemple, un des départements en France où il n'y a pas de salle de concert digne de ce nom, qui peut accueillir les habitants pour voir des beaux programmes symphoniques, musicaux. Alors, il y a certes la Philharmonie de Paris, pas très loin, et c'est très important que ce lieu, évidemment, existe pleinement. Mais le département de la Seine-Saint-Denis a le droit aussi d'avoir des beaux équipements. Donc, voilà, moi, j'ai encore plein de rêves, c'est de faire en sorte qu'on ait un beau lieu en Seine-Saint-Denis, d'accomplir plein de beaux projets. Et, donc, et puis surtout, que ça soit plus simple. Parce que malgré tout, même si ça paraît une évidence, aujourd'hui, je me bats énormément pour trouver les moyens à cet orchestre d'exister, même si dans les discours, tout le monde est content. Mais après, quand il faut mettre la main au porte-monnaie, c'est une autre affaire.
C'est ça, il y a les discours et puis les subventions, c'est deux colonnes.
Exactement.
Deux colonnes différentes.
Tout à fait.
Vous êtes un vrai jukebox et dans votre playlist, il y a aussi Avava Inouva signé Idir. arabe d'ailleurs.
Je le comprends, mais je ne le parle pas très bien. Non.
Elle raconte quoi cette chanson?
Alors c'est une chanson qui est en kabyle et qui parle de tendresse aussi entre un père et sa fille, et qui raconte aussi en fait les moments aussi de partage le soir au coin du feu, et que d'un père, papa qui raconte l'histoire dans une maison en Kabylie. Et donc c'est un peu dans le même esprit que la tendresse qu'on a entendue tout à l'heure. Et là, c'est une musique qui est magnifique. J'adore cette mélodie. Et puis, c'est une musique que notre papa nous faisait beaucoup écouter quand on était petit. Et donc, voilà, donc ça me fait penser aussi à ces beaux moments d'enfance partagés en famille.
Il y a la place pour la vie personnelle quand on a une passion aussi dévorante que la vôtre. Vous avez évoqué Sarah, votre petite fille, qui a 8 ans, je crois.
Oui. Ouais. Exactement. C'est vrai que c'est pas évident de trouver cet équilibre-là. Après, aujourd'hui, j'ai aussi besoin d'avoir ces temps où je peux aussi passer du temps en famille, consacrer à ma fille Sarah, parce que pour être une bonne chef d'orchestre, faut aussi être dans une vie aussi bien équilibrée. Et quand c'est vrai que pendant très longtemps, on a préjugé de la capacité des femmes à être chef d'orchestre et à avoir une vie de famille, être maman. Et voilà, et quand j'étais enceinte de Sarah, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts et j'ai jamais ensuite réduit mes ambitions parce que j'étais maman. Mais
elle ne vous dit pas des fois, arrête de courir, maman, non?
Si, parfois elle me le dit en effet. Mais en même temps, je l'ai aussi beaucoup amenée avec moi, donc elle a découvert énormément de lieux, de situations, de musique. Et je trouve que c'est tout à fait compatible d'être une femme, d'être chef d'orchestre, d'être maman, d'avoir une vie de famille. C'est pas en étant uniquement concentré sur sa trajectoire personnelle qu'on a un bon chef d'orchestre. Et donc voilà, et moi j'y tiens beaucoup à cet équilibre.
Équilibre et variété. Vous dansez le moonwalk?
Non, j'aimerais ouais. Savoir le faire, mais non.
Parce que dans vos choix musicaux, décidément, il y a aussi Michael Jackson et Billie Jean. Et c'est sur un fond de Michael Jackson, Zaga Ziwani, que vous allez nous présenter l'objet que vous avez apporté. Je crois avoir une petite idée.
Oui, en fait, j'en ai ramené même deux. J'ai ramené ma baguette et une partition.
Une partition et la baguette.
Tout à fait. J'ai toujours une partition dans mon sac parce que j'adore en fait ouvrir la partition, la lire, l'entendre dans ma tête. Et donc c'est vrai.
C'est quoi alors comme partition?
Alors là, c'est la symphonie numéro 1 de Gustave Mahler.
Parce que ça vous va bien, je trouve, de parler de Mahler avec un fond de Michael Jackson. C'est complètement vous.
J'adore Michael Jackson parce qu'il y a le sens du rythme, de la mélodie. Et Gustave Mahler, c'est exactement la même chose. Donc en fait, et c'est vrai que dès que j'ai 5 minutes ou en attendant, ou parfois quand je suis dans le métro ou dans un taxi, j'aime bien justement me plonger dans la musique. Et puis ma baguette aussi.
Attendez, mais juste, ça se travaille une partition de la même manière qu'un instrumentiste travaille une partition?
Complètement, oui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très important pour un chef d'orchestre d'être très préparé en amont des répétitions, parce que quand il arrive, il faut avoir une vision très claire déjà de comment ça doit sonner, puis de la direction qu'on veut donner au musical auprès des musiciens. Donc en fait, ça demande énormément de préparation en amont, et c'est pour ça que moi je prends beaucoup de temps aussi à les travailler. Et comme je dirige énormément d'œuvres tous les ans, donc il faut que j'anticipe beaucoup cette préparation.
Et donc la baguette.
Et la baguette, parce
qu'en fait, elle est dans son étui. Vous allez la sortir quand même. Oui. Vous allez la montrer. Vous allez nous la décrire même.
J'en ai même deux, une plus grande que l'autre. Et parce que parfois, en fonction des effectifs que je dirige, ou en fait de la luminosité aussi sur le plateau, j'en ai une en bois et puis une de couleur blanche. Et parce qu'en fait, comme tous les
Mais une baguette, c'est interchangeable ou c'est comme un Stradivarius pour un violoniste? On a chacun le sien, on garde son instrument.
Ouais, non, après, on peut la changer. Alors, moi, j'ai une baguette un peu fétiche avec laquelle je dirige depuis quasiment 10-15 ans. Alors, elle est un peu cassée au bout. Mais c'est pas grave, je la garde quand même parce que j'y tiens beaucoup. Tous mes gros concerts, je les dirigeais avec. Et en fait, comme tous les jours, j'ai souvent soit une répétition, soit un concert, soit parfois une conférence auprès des jeunes. Donc elle est tout le temps dans mon sac parce que elle fait partie de ma vie tous les jours.
Donc c'est toujours la même quand même, hein.
Oui.
Mais ça s'achète où, une baguette?
En fait, il y a des luthiers à Paris qui vendent des instruments de musique et qui vendent aussi des baguettes de chef d'orchestre.
Et c'est fait main aussi?
Oui, c'est... Alors certaines d'entre elles, oui, et puis d'autres qui sont faites soit en bois, soit en fibre de carbone. Donc après, j'y vais, je les essaye en fonction aussi
du poids, du point d'équilibre en fonction de la prise aussi dans la main. Parce que c'est vrai que moi, je dirige énormément, je suis debout quasiment toute la journée, c'est très physique, très engageant. Donc c'est important aussi d'avoir une baguette avec laquelle on est à l'aise pour pas avoir de tension dans le bras aussi.
Zahir Ziwani, on peut pas se quitter sans quelques notes de la 9e symphonie de Beethoven, parce que je crois que c'est une de vos préférées,
oui,
celle-là.
Oui, tout à fait.
Donc je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous nous racontiez.
Beethoven, c'est un compositeur avec lequel j'ai grandi, puisque j'ai écouté beaucoup de... Et d'ailleurs, un de mes premiers souvenirs en musique aussi, c'était avec la symphonie pastorale de Beethoven, la 6e. Et en fait, j'ai appris à en connaître plusieurs, la 5e par la suite, la 7e et puis la 9e. Alors, la 9e, on la connaît beaucoup avec l'hymne à la joie à la fin et toute la dimension symbolique et humaniste.
L'hymne européen aujourd'hui.
Voilà, l'hymne européen, tout à fait, que j'ai eu beaucoup de plaisir à diriger, d'ailleurs récemment en présence des 27 chefs d'État européens. Et c'était pour moi, j'étais hyper émue de jouer cet hymne européen après avoir joué l'hymne français.
Vous faites de la politique en fait avec votre baguette, vous.
Eh bien, quelque part, oui, il y a de l'engagement, tout à fait, politique, et c'est vrai aussi. Et voilà, et du coup, Beethoven, pour moi, c'est une relation très particulière, et cette symphonie aussi, et dans chacun de ses mouvements, premier, deuxième, troisième, quatrième, il y a une philosophie différente, et moi, j'aime bien ce mouvement-là pour l'énergie, le rythme, et c'est vrai que moi, la musique, je l'aime aussi pour cette notion d'énergie, de rythme, de caractère, et je trouve que ça me symbolise plutôt assez bien.
Vous feriez une bonne ministre de l'éducation, non?
Ouais, de la culture aussi, vous savez. Puis, ou peut-être même des deux, d'ailleurs, parce que je trouve que ça va ensemble, l'éducation et la culture. Et on devrait avoir plus de culture, d'ailleurs, dans l'éducation des enfants, à l'école, notamment. Et donc je relèverai bien un jour le défi de faire les deux, d'ailleurs. Mais pas tout de suite encore. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser sur scène.
Merci infiniment, Zahir Ziwani, de nous avoir embarqué avec vous. Merci à Beethoven aussi. Exceptionnellement, on va le garder d'ailleurs en générique de fin. Merci à l'équipe de Hors Piste, Marie Merrier à la baguette et à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Michel Béziquian aux manettes. Zahir Ziwani dans Hors Piste, c'est la tradition. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est à vous.
Bah écoutez, merci beaucoup de votre invitation et voilà, je souhaite à tous les auditeurs beaucoup de beaux moments de musique et d'avoir toujours... Un petit bout de musique tous les jours, c'est quand même un moment de rêve, d'évasion et de force.